Bonjour à tous, bienvenue si vous nous retrouvez sur Fréquence Mistral. Aujourd'hui, une émission spéciale dédiée à Jacques Beck qui vient de publier donc son dernier bébé, Vous étiez paysan. On en parle dans un instant. Pour l'instant, on va ouvrir cette émission avec une chanson qu'il a choisie, Est-ce ainsi que les hommes vivent, par Léo Ferré. C'est tout de suite.
C'est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent? C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était-elle ou non drôle? Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent?
Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu.
Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent?
Il est d'autres soldats en ville, et la nuit montent les civils. Remets du rimmel à tes cils, Lola, qui t'en ira bientôt, encore un verre de liqueur. Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau.
Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent? Comme des soleils révolus.
Voilà cette très belle chanson de oui. Léo Ferré qui fait l'introduction à la poésie. Est-ce que Léo Ferré a été l'un de vos inspirateurs?
Léo Ferré, oui, et Louis Aragon, évidemment. Aragon a fait ce poème... qui est sorti en 1956, le roman inachevé, et puis il parle de son expérience de soldat après la guerre, à la fin de la guerre, hein, quand il était dans les troupes qui occupaient la Sarre. Voilà. Il y aurait beaucoup à dire sur ce poème qui est magnifique et magnifiquement mis en musique par Léo Ferré, bien sûr, ça introduit un peu la thématique de notre rencontre.
Alors, on va parler bien sûr de ce livre que vous venez de publier, mais peut-être encore avant, revenir sur... Donc, vous écrivez depuis toujours, la poésie est quelque chose qui vous touche?
Depuis toujours, la poésie me touche parce que, c'est un mode de lecture qui ouvre la liberté. Hein, quand on lit un recueil de poèmes, qu'il soit de Vigny, d'Hugo, d'Aragon ou d'un autre, on peut le prendre à n'importe quelle page. Et cette page correspond souvent à nos états d'âme, à quelque chose qui nous élève, à quelque chose que nous intériorisons. À vrai dire, j'ai écrit pour moi. J'ai d'ailleurs beaucoup déchiré, comme beaucoup de gens, sans doute. J'ai commencé à exprimer, à garder mes écrits officiellement, on va dire, à partir du moment où j'allais bientôt être à la retraite. Donc, comme je suis à la retraite depuis début 2011, bon, mais j'ai produit un petit recueil en 2008 qui s'intitulait Vagabondage, qui a été suivi ensuite d'un autre recueil, Variations poétiques, qui a été édité à Paris, à Publibook, en 2011. Et puis, plus tard, Question de sens, aux éditions Saint-Trophime, en 2014. Et puis, j'ai fait aussi un essai autobiographique, Enfant des Hautes Terres, qui parle d'un enfant qui est moi, en l'occurrence, puisque je suis né en 1948, et qui parle d'un enfant à la ferme dans les années 50, avec en recul ce regard que l'on peut jeter sur cette période, qui est une période de changement très important dans le monde rural, un regard décalé, ou une période où on a connu encore le cheval, où on faisait des veillées, où il n'y avait pas de télévision et où le loisir était tourné vers la lecture. En tout cas, j'étais dans une famille qui me permettait de lire. Et donc la lecture, le rapport au livre a toujours été pour moi à la fois un rapport d'ouverture et un rapport extrêmement affectif. Et puis j'ai fait d'autres ouvrages, mais là ce sont des ouvrages techniques publiés chez l'Harmattan, je n'en parle pas parce que c'est autre chose. Et je pense d'ailleurs que la poésie vient en complément de l'aridité de nos obligations professionnelles, souvent.
Donc la poésie, quelque chose que vous maîtrisez depuis quelques années. Comment on en vient au fait de faire éditer ? Donc c'est après, avec la disponibilité, on cherche les premières éditions.
La première fois que j'ai fait éditer, c'est tout simple. C'est une amie de ma femme qui me dit, parce que j'écrivais, bon, j'avais quelques textes comme ça, elle me dit, mais pourquoi tu n'essaies pas de rassembler tout ça, de le faire produire, de l'exposer, de le faire connaître ? Et c'est vrai que la poésie ou l'écriture, autant que la parole, est quelque chose de personnel au départ. Et la poésie peut-être encore plus, parce que chaque poème est un peu une vision particulière à un moment donné que l'on porte. Enfin, moi je ne peux pas écrire sur quelque chose que je ne ressens pas. Donc c'est aussi se mettre à nu. Et la première fois que j'ai exposé, c'était en fait une exposition d'un certain nombre de textes, avant que le premier recueil sorte. Et j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une série de photos de moi en sous-vêtements, quoi. C'était vraiment un truc. Les gens lisaient et je me disais, mais bon, ils vont te découvrir, là, c'est pas possible, quoi. Et d'ailleurs, il y a une amie qui m'a dit, tiens, je te connaissais pas comme ça. Voilà, c'était un peu une découverte aussi. Oser se montrer sous une réalité que les autres ne connaissent pas forcément.
La part de sensibilité. Peut-être.
Voilà, c'est ça, oui. La vision particulière qu'on peut avoir d'un fait, d'un événement, d'une valeur.
Vous êtes un enfant du plateau de Valensole, donc c'est aussi ce qui vous a donné envie d'écrire, la beauté des paysages.
Ben, le plateau de Valensole, c'est un... Tous les paysages, surtout quand on y est né, sont particuliers. Le plateau de Valensole, il a une particularité géographique et géologique, mais il a une particularité esthétique, avec cette luminosité qu'on connaît en Haute-Provence, et cette impression d'être sur un plateau au sens quasiment théâtral, souvent, parce que tout est en phase, y compris emphatique, y compris le temps, où quand ce sont des sécheresses, comme maintenant ce sont de très grandes sécheresses, et puis on craint les très grands orages, il est excessif. C'est un pays d'excès, et ces excès ont toujours une personnalité particulière. Et c'est vrai que sur le plateau, bon, quand vous venez partant de Mistral, par exemple, il y a une vision à 360 degrés sur la Haute-Provence, bon, du Ventoux aux Alpes, etc. C'est assez particulier. Et puis il y a cette esthétique permanente, cette luminosité permanente. On le fête d'ailleurs chaque année avec un festival,
le festival
auquel vous avez participé. Oui.
Donc poésie...
Poésie et chanson au Pays des Lavandes durant une semaine sur un maximum de villages. Oui.
On peut en dire deux mots. Donc vous êtes cofondateur de ce festival.
Absolument,
et président de l'association Poètes des Hautes Terres.
C'est ça. Et chaque année, dernière semaine de juin, au moment où le pays présente son image la plus valorisée, avec la lavande en fleurs, avec le blé dur qui va bientôt être coupé, eh bien, on fait ce festival sur plusieurs villages. Cette année, c'était sur 9 villages, avec des randonnées poétiques, avec des conférences et avec des concerts professionnels le soir, consacré aux grands de la chanson. Bon, Ferré, par exemple, cette année, il y avait Cosimon qui était à l'honneur à Valensole, par exemple. Ferré a travaillé longtemps avec Cosimon. On a rendu un hommage à Ferrat au château de Gréoux, à Aznavour. Et puis, nos artistes savent insuffler un peu cet esprit festival qui fait que un public festivalier s'intéresse désormais à ce festival, et je crois qu'on est sur une dynamique très positive.
Oui, le résultat était plutôt positif cette année. Beaucoup de public curieux, et puis des fidèles aussi déjà.
Et des fidèles qui viennent, et d'autres régions de France, ce qui nous satisfait beaucoup, qui participent, qui viennent, et qu'on commence à connaître. Enfin bon, il y a tout ça qui... tous ces ingrédients qui sont nécessaires à un festival et à sa reconnaissance, qui commencent à être présents, et nous espérons que tout cela se stabilise et se conforte dans les années suivantes, même si ce n'est pas toujours facile, bien sûr.
C'est vrai que ce sont des musiciens et des interprètes de qualité, même des auteurs-compositeurs-interprètes.
Oui, tout à fait.
Vous avez
Jean-Sébastien Bressy, par exemple, auquel on pense. Poète et musicien de grand talent, il faut le dire, et qui nous apporte tout son talent avec une modestie assez incroyable et une constance.
Alors, on va revenir à vos écrits et à ce dernier paru. Donc, vous étiez paysan. Alors, vous parlez d'une histoire... petite histoire locale dans la grande histoire.
C'est une petite histoire locale dans la grande histoire. C'est une histoire navrante, à vrai dire, que j'ai entendue très tôt, enfant, dans les années 50, vous savez, dans les grands repas de famille, où j'étais un bambin de 7 ou 8 ans, où les enfants encore devaient rester à table par politesse, et où mon grand-père et ses frères, qui participaient à ces grands repas, avaient mon âge maintenant. Donc, je me dis rétrospectivement, voilà, ils étaient encore jeunes. Oui, voilà, ils avaient 68, 69 ans. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils avaient vécu? Et donc, ils parlaient de ce Marceau Arnaud. Et quand ils en parlaient, c'était toujours avec un air navré. Parce que cette histoire est pathétique, elle est navrante. Un paysan, Valensole, qui ne demandait rien, qui avait 26 ans, qui avait un enfant en bas âge d'un an, qui part à la guerre. Sa femme est enceinte, il ne le savait peut-être pas d'ailleurs, puisque son deuxième fils naîtra en 1915, au milieu de 1915. Et puis il meurt le 20 août, à un endroit où énormément de Provençaux sont morts, puisque c'était l'attaque en Lorraine, les combats en Lorraine, qui visaient à couper l'armée allemande en deux. Et ces gens-là, partis baïonnettes au canon, avec leurs pantalons rouges, se sont fait massacrer. C'était le plan 17 qui avait été élaboré et décidé par l'état-major. Et ce qu'on sait peu, c'est que cette période fut la plus sanglante de la guerre, puisque du 12 août, date des premiers engagements, à la fin août, il y a eu plus de 80 000 morts français dans l'armée française, quoi. Infiniment plus qu'au pire de la bataille de Verdun, par exemple. Donc voilà, c'est cet épisode-là aussi qui transparaît à travers la vie de Marceau Arnaud. Mais au-delà, j'ai voulu le faire vivre du 1er janvier au 20 août, date de sa mort, parce que je voulais aussi que l'on s'imprègne de cette réalité paysanne, de l'activité qu'avaient les gens à cette époque-là, de ce qu'ils faisaient, de leur manière de vivre, leur représentation aussi, la culture, les pratiques sociales, les mentalités. Tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Donc ce sont des éléments assez peu palpables historiquement. Ça veut dire qu'il faut aller chercher dans... à droite, à gauche, un peu puisé dans les éléments qui sont encore présents, dans les références historiques, la façon dont les gens pouvaient se représenter les choses. Et c'est important parce qu'il y a eu, par exemple, le 26 juin et le 10 mai, les élections législatives qui ont fait couler énormément de salive, énormément d'encre à l'époque. Il y avait des enjeux considérables. On était pour ou contre la loi des 3 ans qui obligeait depuis l'année d'avant les jeunes Français à faire 3 ans d'armée. Parce qu'il y avait un déficit démographique très important avec l'Allemagne. Et bien sûr, on retrouvait les radicaux, les socialistes qui étaient contre la loi des 3 ans, Jaurès, Caillaux, et puis tous ceux qui étaient pour, en premier lieu, le président de la République, Poincaré, qui lui était lorrain, et y compris des contradictions qui traversaient les camps, les différents camps, puisque à l'issue de ces élections, même si la gauche a emporté, Poincaré nommera un socialiste indépendant, Viviani, indépendant, il y a toujours des indépendants dans ces cas-là, comme Premier ministre, et en fait, c'est bien, la loi des 3 ans sera bien appliquée, bien sûr, et après, c'est la route vers la guerre Je ne dis pas que le gouvernement français était totalement responsable, mais je dis en tout cas qu'il y a peut-être tout n'a pas forcément été fait dans ce mois de dupe qu'a été le mois de juillet.
Ce livre, vous étiez paysan, donc, de vous, Jacques Beck, paru aux éditions de Saint-Trophime. Ce livre a demandé 2 ans de recherche, de documentation aux archives, c'est ça ?
Ben, 2 ans de recherche, de documentation et 2 ans de maturation aussi, parce que, pour moi en tout cas, il m'est assez impossible d'écrire si je ne ressens pas, si je ne m'imprègne pas, si le temps... il faut laisser un peu du temps au temps, comme dit l'autre, hein, et... Il y a une maturation nécessaire, quoi, pour se mettre à la place d'eux sans se substituer à. Il y a un peu ce travail-là. Donc un double travail d'information, bien sûr, de recherche, d'information, mais aussi un travail d'imprégnation personnelle, progressive, où l'imaginaire joue, mais en même temps, il faut s'appuyer sur des choses réelles.
C'est important pour vous de faire passer cette histoire et ce moment de vie de ce jeune...
Ben, c'est important pour plusieurs raisons. La première, c'est... Bon, on a rendu hommage au 15e corps des Provençaux qui se sont fait massacrer et qui ont été très maltraités par toute une campagne de dénigrement. Bon, mais ça, je n'y reviens pas, parce qu'il y en a d'autres qui ont mieux écrit là-dessus. Mais c'est important parce que c'est le centenaire. Mais c'est important aussi pour moi. D'ailleurs, cet ouvrage est dédié à mes petits-enfants, hein, j'en ai 4. Parce que... Moi, c'est toujours pareil. Dans l'histoire, on se rend compte qu'on tient par la main ses aïeux, hein, mon grand-père, que je revois encore, hein, qui avait donc, parce que peut-être j'ai son âge de cette époque-là, et puis mes petits-enfants. Et eux, cette histoire-là, c'est très très loin. Pour eux, c'est un temps, c'est une autre ère, alors qu'elle est, historiquement, elle est très proche et aussi, ils vivent dans une Europe de paix. Bon. Rien n'est jamais certain. Et elle a été construite, cette Europe de paix, sur un certain nombre de drames, quoi. Donc c'est important de le dire, et de le faire, de le rappeler. Pas de le rappeler pour écrire un énième livre sur l'histoire, mais pour le rappeler à travers le vécu d'un personnage. Parce que, vous savez, les hommes sont des abstractions dans l'histoire, hein. Il y a eu 20 000 morts, il y a eu 27 000. Le jour le plus catastrophique de l'armée française, de toute son histoire, ça a été, je crois, le 27 août. Le 24 août, enfin, je ne me rappelle plus très bien, il y a eu 27 000 morts. Catastrophique. Mais ce sont des abstractions, on balance des chiffres comme ça. Mais lorsqu'un individu réel, de chair et de sang, pris dans ses contradictions, pris dans ses espoirs, ses projets, son affect, vit cela, et lorsqu'on le fait revivre, c'est pas pareil, quoi. Hein, il meurt comme... Mais voilà, il a une densité, quoi. Je crois que c'est cette densité qui est importante aussi.
Vous allez nous en lire quelques extraits. Donc, vous étiez paysan, paru aux éditions de Saint-Trophime, cette maison d'édition donc, qui a été créée avec le poète Guy Jean-Pierre.
Voilà. Alors, j'ai choisi 2 extraits qui ne sont pas très gais. Je passe à la première partie où notre héros, donc, du 1er janvier au 1er août, hein, vit progressivement avec des inquiétudes parce qu'on sent bien que la tension monte, que les risques deviennent présents. Il faut savoir qu'en juillet, la chose la plus discutée dans les familles, c'était le Tour de France, qui finit le 25 juillet, qui avait commencé le 26 juin. Un Belge a gagné, Philippe Otis. Donc, pour dire aussi... Mais le Tour de France, et puis la deuxième, c'était, je crois, le procès de Mme Caillot, qui a été acquittée. Mais c'est aussi... Ce que je pense, c'est que les gens... sentaient monter la tension, mais ils en parlaient d'autant moins que ça montait. Et ça, c'est une caractéristique des Provençaux. Parler à haute voix de ce qui n'est pas très important et taire ce qui est très important. Nous avons une espèce de pudeur inversée. Vous savez, on dit, ici, on a une image de gens qui parlent dans la rue, qui parlent de tout, etc. On ne parle pas de tout. On parle des choses qui ne sont pas graves. C'est pas pareil. Donc voilà, nous sommes le samedi 1er août. Notre héros est sur une aire de foulage qui lui appartient, avec son père et son frère, son jeune frère qui doit être incorporé en septembre. À midi, il est passé devant le Cercle républicain, qui est un des premiers cercles républicains des Alpes d'Haute-Provence, à Valensole, et il a pris une nouvelle, Jaurès est mort, assassiné hier soir. N'est-ce pas la paix qui vient ainsi de succomber ? Il est 17h30. Tout d'abord, vous ne réalisez pas bien ce qui se passe. Vous entendez vaguement la grande cloche sonner, mais au centre des grandes aires, entre conversations, cris, claquements des sabots sur les calades, règne une atmosphère de ruche. C'est en fait ce que vous voyez soudain, à la périphérie, qui vous alerte. Progressivement, des gens s'immobilisent. Une femme cache son visage entre ses mains comme pour pleurer. Une autre caresse presque machinalement la tête de son enfant qui, intuitivement, s'est rapproché d'elle. Plus loin, un homme jette rageur sa fourche par terre. Les chevaux arrêtent leur ronde d'eux-mêmes, se figent sur place, et l'on ne voit plus que leurs muscles frémir silencieusement sous l'assaut répété des temps qui les accompagnent avec acharnement. Puis le silence se fait. C'est comme une onde de sidération qui se propage de la périphérie vers le centre des grandes aires, et cette onde finit par vous atteindre. Et maintenant, dans le silence intégral, seulement troublé par quelques plaintes ou commentaires dépités, vous percevez distinctement le son en provenance de l'église. C'est la grande cloche qui sonne le tocsin, et nulle explication supplémentaire n'est nécessaire pour comprendre que quelque chose de très grave est en train de prendre forme. La hantise se confirme. Le cauchemar devient réalité. Vous échangez avec votre frère Victor un long regard, et dans l'intensité de ce regard, dans sa durée inhabituelle, il vous semble que passent en accéléré les souvenirs imagés de toute une vie, ceux des jours heureux et moins heureux, et surtout, la terrible interrogation réciproque sur l'avenir. Vous êtes immédiatement mobilisable, vous le savez. Lui est de la classe 1914. Il doit être incorporé en septembre. Votre père vous regarde à tour de rôle longuement et, pour la première fois peut-être de votre vie, il vous semble percevoir dans ce regard un profond désarroi. Quelque chose d'affectivement fragile qui tranche avec son habituel aspect sévère et silencieux. Il ne prononce qu'une seule phrase, une seule. « Siam puliva ». On est joli, on est beau maintenant, sous-entendu, nous voilà dans de beaux draps. Tout est dit. Alors ça, c'était le premier extrait, donc pas très gai. Et puis le deuxième extrait, eh bien... C'est l'engagement. Hein. Nous sommes le 14 août 1914. Le 112e régiment d'infanterie qui appartient à la 29e division du 15e corps d'armée, de la 2e armée commandée par le général de Castelnau, va pénétrer en territoire allemand et va prendre la citadelle de Moncourt. Moncourt est un petit village où je suis allé, où on retrouve encore des traces de tranchées. Et des restes de cette citadelle dans un petit bois complètement caché par les ronces, etc. Et ce qu'il y a de remarquable à Moncourt, c'est que de très loin, on voit la plaine Lorraine. Donc j'imaginais de Moncourt à quel point on pouvait voir de très loin ces pantalons rouges qui arrivaient par milliers. Et vous imaginez ces gens qui étaient prêts à les attendre avec des mitrailleuses, etc., ce que ça a pu donner. Donc... Je vais vous lire ce passage où ils prennent la citadelle de Moncourt. Ils arrivent sur les hauteurs à 14 heures environ. Le général Tocane, commandant la 57e brigade, l'annonce le 13 au soir. Demain, vous entrerez officiellement en guerre. L'objectif est la prise de la citadelle de Moncourt, village frontière devenu allemand après la guerre de 1870. Moncourt se situe sur un léger promontoire idéalement situé, à quelques kilomètres de la garde. Du nord-ouest au sud-est, on y voit de très loin, et il est très compréhensible que cet endroit ait été choisi pour y construire une citadelle, à quelques centaines de mètres de ce village frontière. Tout autour, on aperçoit des prairies, des enclos, des bosquets plus ou moins importants qui alternent avec les champs de céréales. C'est dans ce décor campagnard, dont le silence le matin encore était seulement troublé par le meuglement des vaches, les bruits de basse-cour, le chant des oiseaux, ou les aboiements de quelques chiens que vous allez subir le baptême du feu. L'arrivée soudaine vers midi au sommet d'une colline de milliers de pantalons rouges ne manque pas de majesté. Et il y a là de quoi impressionner la garnison d'en face. En même temps, tous ces biffins en pantalons rouges sont visibles de très loin et vont constituer des cibles idéales, car il y a environ 1 kilomètre entre le promontoire où vous êtes apparu et la forteresse dont la défense a été préparée de longue date. Il est 14 heures, et ordre est donné au 112e régiment d'infanterie de foncer droit au but. Brusquement, les premiers obus éclatent et les mitrailleuses de l'ennemi ne vont pas tarder à déclencher le feu. L'après-midi va s'écouler, terrible, ponctué par les sonneries de clairons, les en avant hurlés par les gradés, les explosions et les hurlements des blessés. Il n'y a rien pour se cacher, sinon parfois des gerbes de foin ou la protection bien illusoire du seigle aux longues tiges que les mitrailleuses d'en face criblent et abattent sans pitié avec ceux qui essaient vainement de s'y abriter. Les batteries de 75 tardent à se mettre en place et certaines ont même un retard inexplicable, ce qui met les biffins en rage. De plus, le danger ne vient pas seulement de la forteresse, car le moindre bosquet s'avère être un piège et les feldgros, solidement abrités dans les tranchées préparées il y a bien longtemps, vont faire échouer à 2 reprises, lors d'assauts sanglants, des tentatives qui se veulent décisives. Ce n'est que vers 19h, enfin, qu'une dernière attaque vous permettra d'enlever la place. Progressivement, un grand silence s'installe et il va trancher avec la fureur des instants précédents. Vous êtes sauf. Votre cœur bat à se rompre. Votre bouche est du carton, votre ventre est noué. Vous émergez de cet enfer comme un automate et commencez à regarder autour de vous. Beaucoup de camarades ont disparu et dans la plaine derrière vous, ce ne sont que cris, courses brancardiers, batteries fumantes démantelées par les tirs adverses, chevaux morts ou agonisants. Mais surtout, parce que cela frappe particulièrement votre esprit, vous découvrez des victimes éparpillées à perte de vue dans cette verdure, le matin encore si paisible, où les pantalons en rouge vif ne sont pas sans rappeler les champs de coquelicots de votre plateau au printemps. La mort, parfois, se pare de nuances esthétiques inattendues. Voilà.
Donc, extrait de votre livre « Vous étiez paysan », les éditions de Saint-Trophime, un livre que l'on peut se procurer...
Alors, soit aux éditions de Saint-Trophime, par Internet, et dans les librairies bientôt, puisqu'il va sortir.
Voilà. Vous avez prévu des séances de dédicaces
Alors, il y a des séances de dédicaces, il y en avait une hier soir à Valensole, puisque c'est vraiment... Mais il y aura des séances de dédicaces probablement à Manosque, enfin dans les grandes librairies. Hein. C'est notre éditeur Guy Jean-Pierre qui est en train de les préparer. Mais il y aura aussi, probablement, certainement, on va dire, des conférences de présentation, puisque je suis en train de préparer, avec mon ami Régis Nicolas, qui a fait le film « La magie du plateau de Valensole », un montage avec un petit film et puis un certain nombre de diapos qui nous permettront de rentrer dans le vif du sujet de cette situation-là et qui seront un peu préalables à la présentation du livre. Donc ça, on va le faire probablement dans un certain nombre de bibliothèques, de médiathèques, et puis autour du 11 novembre aussi probablement. On a déjà quelques rendez-vous importants là-dessus, notamment à Roumoul, notamment à Allemagne et à Saint-Martin-de-Brome. Et l'année prochaine pour le centenaire aussi, bien sûr, Valensole, Montagnac, enfin voilà.
Donc un livre hommage aux soldats provençaux du 15e Corps, qui furent donc parmi les premiers à se faire décimer en Lorraine.
C'est à travers Marceau Arnaud. Hein. Mm-hmm. Alors Marceau Arnaud, pour la toute petite histoire, la sienne, était né le 6 juin 1888. Il avait fait son armée en 1908. Il s'était marié en 1912. Il est mort à Bidestroff le 20 août 14. C'était le numéro de matricule 336. Et son nom est à 3 endroits, la nécropole de Riche en Moselle, l'église de Valensole et le monument aux morts de Valensole. Voilà. Un anonyme sorti de l'anonymat un petit peu, j'espère.
Comment on se sent après avoir terminer la dernière page du livre.
On se sent... quand on a vécu avec un personnage pendant 2 ans, il y a un effet de vide, hein, un petit peu. En même temps, on se sent un peu porté par la nécessité de faire reconnaître, quoi. Bon, je pense que c'est un mouvement un peu naturel de faire reconnaître, puisqu'on a fait la démarche d'écrire, de faire reconnaître cet écrit et de le valoriser au sens, pas au sens économique, hein, quoique, hein, c'est pas non plus... Mais de le valoriser, y compris, par exemple, je sais pas, dans des collèges, où, si l'opportunité m'en est donnée, c'est avec grand plaisir que je participerai à des choses comme ça, quoi. C'est, voilà. Parce que, bon, c'est un travail qui a été fait, et je pense qu'on est dans une période propice pour aussi voilà, le faire connaître un petit peu.
Vous êtes, transmetteur de l'histoire.
Ben, d'une voilà. certaine manière, oui, quoi. Hein. La petite histoire qui rentre et qui est dans la grande histoire, hein. Oui, c'est vrai.
Jacques Beck, est-ce qu'on a oublié de dire des choses importantes, et lesquelles ?
Alors, ce roman avait été précédé par un poème, qui est d'ailleurs à la fin du roman, qui s'appelle « Un pantalon rouge », qui est dans le recueil de poésie que j'avais fait en 2014. Et ce poème a été utilisé, avec mon accord, hein, bien sûr, hein, par le groupe Régis de Jasmin dans son Requiem pour les morts de la Grande Guerre, puisqu'il est chanté, mis en musique, et chanté, et très très bien chanté, à la fin de ce Requiem, et il est passé à la cathédrale à Digne, à Manosque, à Valensole, à Fort-Calquier, je crois, enfin bon, et il est passé un petit peu de partout, voilà.
Et vous allez nous le lire,
et ben, peut-être,
si vous voulez.
Pas. Il avait 25 ans, ses jours étaient comptés. Robuste et courageux, il cultivait sa terre. Il allait vivre là, son tout dernier été, victime désignée d'une terrible guerre. Les blés, dira Giono, poussaient à l'habitude. Juillet s'annonçait beau, du soleil sur la France. Certains prédisaient même un siècle de quiétude. Nos gouvernants montraient une mâle assurance. Bien sûr, le ton montait en Europe centrale. Bien sûr, nous étions pris dans un jeu d'alliance. Lui ne percevait pas cette pente fatale. Aborder le futur avec grande confiance. Mais l'avenir semblait se recouvrir d'un voile, tant les nuages noirs montaient à l'horizon. Il couvrait le soleil, il masquait les étoiles, et les nations grimpaient l'échelle des tensions. Il avait 25 ans, un enfant en bas âge, l'amour de son épouse, un avenir sans bornes. Des millions comme lui allaient subir l'orage et des milliers d'entre eux ne verraient pas l'automne. On l'amena très loin vers ce pays de Meuse, de vallons verdoyants et de hameaux déserts, un pays de légendes où la grande faucheuse se vautrera bientôt dans un décor d'enfer. Pour l'heure, début août, la guerre est débonnaire, des villages brûlés qu'on perd ou qu'on reprend, suite à une escarmouche au contact des Uhlans. Parfois, un cheval mort complète l'ordinaire. Mais tout devient plus dur dans l'été finissant. Les chocs sont plus violents, plus sanglants les assauts. Écrire à son épouse et être rassurant. Ne pas montrer sa peur ou noircir le tableau. Un matin du mois d'août, au soleil brouillardeux, quelque part, en Lorraine, une grande bataille. C'est là que finira le chemin glorieux de rouges pantalons hachés par la mitraille. Il tombera aussi, fauché dans sa jeunesse. Le village entrera un peu plus dans le deuil. Un peu plus pleureront les femmes en détresse face aux mornes convois amenant les cercueils. Il s'appelait Arnaud, il était paysan. C'est à lui que je pense, aux siens, à leurs souffrances, à ceux qui ont péri dans cet affrontement, à tous ces disparus qui sont morts pour la France. Il avait 25 ans, ses jours étaient comptés. Robuste et courageux, il y cultivait sa terre. Il allait vivre là son tout dernier été, victime désignée d'une terrible guerre. Voilà.
Donc c'est un poème que vous avez écrit qui s'appelle « Un pantalon rouge ».
Voilà, en 2014. Et donc je pensais à cette histoire-là et elle est revenue sous forme de roman. Je pense que le poème ne dit pas tout et que le roman permet aussi de rentrer beaucoup plus dans l'intimité, dans la réalité, de donner chair à un individu. C'est d'ailleurs la différence qu'il y a entre le roman et la poésie, probablement. La poésie est souvent elliptique, métaphorique. Elle est faite de mots précis qui vont à l'essentiel. Le roman permet, donne le temps, il donne une distance.
C'est votre premier roman ?
C'est mon premier roman, et j'avoue que je ne savais pas trop comment m'y prendre. Bon, après, vous savez, c'est essai-erreur. Bon, j'ai choisi une narration assez simple, chronologique, et puis j'ai choisi de lui parler en le voyant, pour deux raisons. D'abord parce que je l'ai fait vivre au présent et ça me permettait de faire des retours assez faciles sur le passé ou l'imparfait, ou bien sur le futur. Et puis le vouvoiement m'est venu naturellement parce que je crois qu'il faut une distance respectueuse avec... D'abord, je ne le connaissais pas et voilà quoi. Puis comme je ne tutoie pas facilement, je ne me voyais pas tutoyer comme on fait beaucoup à l'époque. Un tutoiement qui est un peu souvent la marque d'une superficialité. Voilà.
Est-ce que ce livre, ce premier roman, va donner suite à d'autres ?
Eh bien, j'en parlais hier soir avec mon épouse. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas écrire maintenant ? Alors, je dis, écoute, donne-moi, je ne sais pas, peut-être. Moi, j'avoue que je suis très, très intéressé par les romans historiques, les romans biographiques, les romans qui parlent d'une période. Hein. Par exemple, j'ai beaucoup aimé les romans de Zarkas, l'espagnol, Anatomie d'un instant, ou bien Les soldats de Salamine, qui raconte l'histoire assez incroyable d'un républicain à la fin de la guerre civile d'Espagne en 1939, qui est sauvé malgré lui, parce qu'il se cache dans un fossé, puis poursuivi par les troupes franquistes. Et il y a un lieutenant qui dit aux soldats, cherchez-les, cherchez-les. Il y a un soldat qui passe à côté de lui, et le lieutenant lui dit, alors tu l'as trouvé? Et deux hommes se regardent, et le gars, il hésite, et il dit non. Et Zarkas est allé retrouver la famille, les familles de ces gens-là. Et donc il a écrit, et à travers des récits romanesques comme ça, on appréhende mieux la réalité terrible, par exemple, de ce que fut cette guerre. Hein. Pareil pour Padura, un auteur cubain qui a écrit « L'homme qui aimait les chiens », qui parle en fait de Ramon Mercader, un autre espagnol, mais qui a assassiné Trotsky. Hein. Voilà, j'aime bien ce type de roman. Alors, l'histoire valenciennoise n'est pas pleine de ce genre de choses, mais voilà, en même temps, je ne sais pas bien.
Jacques Beck, merci. Et puis, merci donc, les personnes qui nous écoutent, qui auront envie de se procurer votre livre, ce sera sur Internet, sur les éditions de Saint-Trophime. Et aussi, on peut avoir d'autres renseignements sur votre site à
voilà,
vous, Jacques
voilà,
Beck.
Complètement. Ou en m'écrivant sur contact@poetedeshautesterres.fr.
Très bien. Voilà. Merci. Très bonne journée à vous. Au
merci
revoir.
Beaucoup. Au revoir. Bon.
Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être idiot. T'as peut-être raison, oui mais voilà, quand je t'aurai dit, tu comprendras. La première fois que je l'ai vue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été au beau milieu d'un champ de blé. Et sous le corsage blanc, là où battait son cœur, le soleil gentiment faisait vivre une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. C'est très curieux comme tes yeux brillent en te rappelant la jolie fille. Ils brillent si fort que c'est un peu trop pour expliquer les coquelicots. T'as peut-être raison, seulement voilà, quand je l'ai pris, prise dans mes bras. Elle m'a donné son beau sourire, et puis après, sans rien nous dire, dans la lumière de l'été, on s'est aimé, on s'est aimé. Et j'ai tant appuyé mes lèvres sur son cœur qu'à la place du baiser, il y avait comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. Ça n'est rien d'autre qu'une aventure, ta petite histoire, et je te jure qu'elle ne mérite pas un sanglot, ni cette passion des coquelicots. Attends la fin, tu comprendras, un autre l'aimait, qu'elle n'aimait pas. Et le lendemain, quand je l'ai revue, elle dormait à moitié nue, dans la lumière de l'été, au beau milieu du champ de blé. Mais sur le corsage blanc, juste à la place du cœur, il y avait trois gouttes de sang qui faisaient comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme.